Il avait été arrêté pendant sa marche sur Rome. Quand même 50 Garibaldi seraient jetés en prison, écrivait-il, il faut que Rome soit libre. Peut lui importer son propre bien-être, pourvu que la liberté de l'Italie fût assurée. Si notre amour pour notre maître et pour sa cause est assez profond, pour nous porter à faire n'importe quel sacrifice, soyez-en sûrs, le Seigneur se servira de nous pour établir son royaume. J'ai lu l'histoire d'un chef barbare du IXe siècle qui va attaquer un roi. Ce roi avait une armée de 30 000 hommes, et quand il apprit que le chef n'avait que 500 hommes avec lui, il lui fit dire que, s'il consentait à se rendre, il le traiterait avec miséricorde, ainsi que ses soldats. Dès que le chef barbare eut entendu cette proposition, il se tournait vers un des hommes de sa suite et lui dit « Prends ce poignard et enfonce-le-toi dans le cœur ». Le soldat obéit immédiatement et tomba mort aux pieds de son chef. Puis se tournant vers un autre, « Jette-toi dans ce précipice », lui dit le barbare. Sans hésiter, le second soldat s'élança dans le vide et l'on vit son corps rebondir et se briser sur les pierres. Le chef barbare s'adressa alors au messager du roi « Retourne vers ton maître et dis-lui que j'ai 500 hommes tels que ceux-ci. Nous pourrons mourir, mais nous ne nous rendrons jamais. Dis à ton roi que dans 48 heures je le ferai enchaîner à côté de mes chiens. » Lorsque le roi sut de quelle trempe étaient les hommes qui marchaient contre lui, il eut peur. Son armée fut tellement démoralisée qu'elle fut bientôt dispersée comme de la paille devant le vent. Selon la prédiction du chef, avant que les 48 heures fussent écoulées, le roi fut fait prisonnier et enchaîné à côté des chiens de son vainqueur. Quand on verra que nous n'avons d'autre but au monde que de travailler pour Dieu, on se sentira ému et l'on viendra nous demander ce qu'il faut faire pour être sauvé. La tempête était à son comble quand un cri retentit un homme à la mer. On put voir distinctement une forme humaine luttant courageusement contre les éléments en furie et se dirigeant vers le rivage, mais les vagues l'entraînaient au large et avant qu'on eût pu descendre les embarcations, une effroyable distance séparait déjà le nageur du secours qu'on voulait lui porter. Il poussa un cri qui domina le bruit de la tempête. Ce fut un moment d'inexprimable angoisse. Tous les regards étaient tendus vers le malheureux naufragé. Les braves rameurs raidissaient leurs muscles et se courbaient sur leur rame avec toute l'énergie dont ils étaient capables, mais tous leurs efforts furent inutiles. Encore un cri de désespoir et la victime disparut sous les flots. Alors on entendit un autre cri, non moins perçant « Sauvez-le ! Sauvez-le !» Et l'on vit un homme se précipiter sur le bord du navire, levant les bras au ciel dans sa détresse « J'offre 20 000 francs à celui qui le sauvera ». Mais son œil hagard n'eut rien d'autre à contempler que la place où les vagues s'agitaient sans remords au-dessus de l'homme qu'elles avaient englouti. Celui dont le cri perçant avait ému tous les cœurs était le capitaine du navire et le noyé était son propre frère. Ce désir passionné de sauver son frère doit se retrouver chez quiconque s'est enrôlé sous la bannière du grand capitaine de notre salut. Sauvez-le, c'est mon frère. Le fait est que beaucoup d'hommes rejettent le christianisme parce qu'ils trouvent que nous ne sommes pas suffisamment convaincus, que nous ne nous prenons pas nous-mêmes assez au sérieux. Dans cette même épître aux Éphésiens, où j'ai pris mon texte, l'apôtre dit que nous devons être des épîtres vivantes, lues et connues de tous les hommes. Jamais, à ma connaissance, les chrétiens ne se sont mis résolument à l'œuvre dans le champ du Seigneur sans que Dieu leur ait accordé une abondante moisson. Hier soir, je suis venu à la réunion qu'on avait convoquée dans cette salle pour les hommes qui sont adonnés à la boisson et je vous assure que nous avons eu de quoi nous occuper jusqu'à minuit. Il y avait là des hommes qui avaient été les esclaves de la boisson et qui étaient venus dans l'espoir d'obtenir la victoire sur leur terrible penchant. De quelque côté que vous mettiez la faucille, vous verrez que la moisson est blanche, toute prête à être moissonnée. Ce que Dieu demande, ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté. C'est infiniment plus précieux que les plus excellentes institutions. Si un homme ou une femme sont tout à fait résolus à travailler pour Dieu, ils n'attendront pas de faire partie de quelque comité. Si je vois un homme tomber à la rivière et en danger de se noyer, je n'attends pas de faire partie d'un comité pour essayer de le sauver. Bien des personnes disent qu'elles ne peuvent rien faire en fait d'évangélisation parce que personne ne les en a chargées. La semaine dernière, j'ai demandé à quelqu'un de nous aider dans nos réunions intimes. Je n'appartiens pas à ce quartier de Londres, m'a-t-il répondu. Habituons-nous à regarder le monde entier comme notre paroisse, comme notre champ de travail. Si Dieu a placé quelqu'un à portée de notre influence, n'hésitons pas à lui parler de Christ et du ciel. Peut-être le monde se lèvera-t-il contre nous et nous traitera-t-il d'insensés. Je suis porté à croire que nul n'est propre pour le service de Dieu s'il n'est disposé à passer pour fou aux yeux du monde. On a bien dit que Paul était fou. Plus à Dieu qu'il y eut, parmi nous un grand nombre d'hommes atteints de la même folie. Comme quelqu'un l'a dit, si nous sommes des fous, nous avons un bon gardien pendant que nous sommes en route et un bon asile au terme de notre voyage. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'après être venu à des réunions comme celle-ci et avoir été ému, on reste plein de zèle pendant 2 ou 3 semaines, peut-être, puis tout cela s'éteint. Cela me fait penser à un tas de copeaux sur lequel on a versé de l'essence de térébenthine. Vous y mettez le feu, une flamme brillante s'élève, mais bientôt il ne reste plus rien. Notre zèle ne doit jamais se ralentir, ni jour ni nuit. J'ai entendu parler, en Amérique, d'un certain puits qu'on disait très bon, il n'avait que 2 défauts, il gelait en hiver, et il se desséchait en été. C'était un puits bien extraordinaire, n'est-ce pas? Mais je crains qu'il ne soit pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont pleines de zèle et de dévouement par moments. Cela ne suffit pas, il faut que notre ardeur ne se refroidisse jamais. N'attendez pas qu'on vienne vous demander votre collaboration. On dit souvent qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, et c'est Cromwell, je crois, qui a dit que lorsque le fer n'est pas chaud, il faut le battre jusqu'à ce qu'il s'échauffe. Restons à notre poste, et notre zèle ne tardera pas à s'enflammer au service du Seigneur. Je voudrais, en terminant, m'adresser particulièrement aux moniteurs des écoles du dimanche. Ne vous contentez pas, je vous en supplie, d'indiquer aux enfants la croix du Seigneur Jésus-Christ. Tant de moniteurs sèment le bon grain dimanche après dimanche, avec le vague espoir d'une moisson lointaine, ils ne comptent pas sur une moisson immédiate. J'ai fait comme eux, autrefois, et il s'est passé des années, sans que je visse aucune conversion. Je crois que l'intention de Dieu est que nous semions d'une main et moissonnions de l'autre. Les 2 opérations doivent marcher ensemble. Croire que les enfants ne peuvent être amenés à Christ que quand ils seront devenus des hommes ou des femmes est une idée fausse. On peut les amener à Christ dès leur enfance et Christ les gardera de telle sorte qu'ils deviendront des membres utiles de la société. Ils seront en bénédiction à leurs parents, à l'Église et au monde. Si vous les laissez grandir, au contraire, sans devenir chrétiens, beaucoup d'entre eux seront entraînés par les mauvais exemples et au lieu d'être une bénédiction, ils seront un fléau pour la société. Quelle est aujourd'hui la grande préoccupation de tous ceux qui s'occupent des écoles du dimanche? C'est le sort des jeunes gens et des jeunes filles qui quittent l'école du dimanche. Vers l'âge de 15 ou 16 ans, ils disparaissent tout à coup et nous n'en entendons plus parler. Il y a en ce moment même dans vos prisons beaucoup de jeunes gens qui ont été élèves des écoles du dimanche. Ce lamentable état de choses tient à ce que si peu de moniteurs croient à la conversion des enfants. On ne s'efforce pas de les amener à une connaissance personnelle de Jésus-Christ, on se contente de répandre la bonne semence. Je voudrais que chaque moniteur prît la ferme résolution, avec l'aide de Dieu, de ne s'accorder ni trêve ni repos jusqu'à ce que son groupe tout entier soit entré dans le royaume de Dieu. Celui qui prendra une telle résolution verra des signes et des prodiges d'ici 1 mois. Jamais je n'oublierai la circonstance qui va réveiller ma conscience sur ce point. Je dirigeais une grande école du dimanche contenant 1 millier d'enfants. Ce chiffre élevé me faisait le plus grand plaisir. S'il se maintenait ou s'il était dépassé, j'étais ravie. Si, au contraire, il diminuait, je m'attristais beaucoup. Je ne pensais toujours qu'au nombre des enfants. Parmi les groupes, il y en avait un qui donnait plus de peine que tous les autres. Il était composé de jeunes filles et se tenait dans un des coins de la grande salle. Il n'y avait dans toute l'école qu'un seul moniteur qui put le diriger et y maintenir le bon ordre et la discipline. C'était tout ce qu'on pouvait espérer, pensais-je, et l'idée qu'aucune de ces jeunes filles pût être convertie ne me venait pas même à l'esprit. Un certain dimanche, ce moniteur était absent et ce fut à grand-peine que son remplaçant put maintenir l'ordre dans le groupe. Dans le courant de la semaine, le moniteur vint me voir à mon bureau. Je le trouvai très pâle et m'informai aussitôt de sa santé. « Je viens d'avoir un crachement de sang, » me dit-il. « Le médecin m'a prévenu que les poumons sont pris et que je n'ai plus pour longtemps à vivre. Je vais retourner chez ma mère dans l'état de New York et il faut que je renonce à mon groupe. » Il était convaincu, évidemment, que ses jours étaient comptés et pendant qu'il parlait, ses lèvres tremblaient, ses yeux se remplissaient de larmes. J'en fus frappé et lui dis « Vous n'avez pas peur de mourir, n'est-ce pas ? » ?»« Oh, non, je n'ai pas peur de mourir, » me répondit-il, « mais je vais paraître devant Dieu et il n'y a pas une seule de mes élèves de l'école du dimanche qui soit convertie. » Que lui dirais-je ? Comme il envisageait toute chose sous un nouvel aspect, maintenant qu'il sentait qu'il allait rendre compte de son administration. Je gardai le silence. C'était une chose absolument nouvelle pour moi d'entendre parler de la sorte. Je lui dis enfin, voulez-vous que nous allions voir vos élèves et leur parler de Christ ? Je suis bien faible, me répondit-il, trop faible pour marcher. Eh bien, nous irons en voiture. Nous commençons notre tournée ? Il avait à peine la force d'entrer dans chaque maison, tout en s'appuyant sur mon bras, mais il rassemblait toute son énergie pour parler à son élève, pour prier avec elle, pour la supplier de se donner à Christ. C'était une grande leçon pour moi. J'apprenais à voir les choses sous un jour tout à fait nouveau. Quand il fut à bout de force, je le ramenai chez lui. Le lendemain et les jours suivants, il continua ses visites. Parfois, il allait seul, parfois, je l'accompagnais. Enfin, au bout de 10 jours, il revint me trouver à mon bureau. Sa figure était rayonnante. « La dernière de mes élèves, dit-il, a donné son cœur à Christ. Je puis partir, maintenant j'ai fait tout ce que j'ai pu, mon œuvre est terminée. » Je lui demandai quel jour il comptait partir. « Demain soir, répondit-il. Seriez-vous content, lui dis-je alors, si j'invitais ces jeunes filles à se réunir chez moi pour vous revoir encore une fois avant votre départ ? Il accepta avec empressement et je me hâtai de faire mes invitations. Pas une des jeunes filles ne manqua au rendez-vous. Jamais je n'avais passé de soirée comparable à celle-là, jamais je ne m'étais trouvé avec autant de personnes récemment amenées à Christ par ses efforts et les miens. Nous priâmes pour chacune des élèves du groupe, pour le moniteur, pour le directeur. Chacune des jeunes filles pria à son tour. Quel changement s'était opéré en elle dans ce court espace de temps. Nous essayâmes de chanter, mais nous ne pûmes pas très bien y réussir. Tout le monde prit congé du moniteur à la fin de la soirée, mais j'avais besoin de le revoir encore une fois. Le lendemain soir, j'allai à la gare et à ma grande surprise, toutes les élèves de son groupe s'y trouvaient déjà, sans s'être concertées, chacune avait voulu lui dire adieu une dernière fois. Nous étions tous sur le quai, quelques personnes se réunirent autour de nous, des ouvriers du chemin de fer, des voyageurs. C'était une belle soirée d'été, le soleil se couchait derrière les prairies de l'ouest. Enfin le train se mit en marche, notre ami alla se placer sur la plateforme extérieure, les wagons, en Amérique, sont faits autrement que les vôtres, et montrant le ciel du doigt au revoir là-haut, nous dit-il, et il disparut. Quelle œuvre avait été accomplie pendant ces 10 jours ? Quelques-unes des élèves de ce groupe ont été pendant des années parmi les monitrices les plus dévouées de l'école. Plusieurs d'entre elles y travaillent encore aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai rencontré une autre de ces anciennes élèves travaillant, avec zèle pour le Seigneur, sur les côtes de l'océan Pacifique. L'été qui suivit le départ de notre ami, il se fit dans notre école un réveil religieux. Sous cette influence bénie, je renonçais aux affaires pour me consacrer tout entier à l'œuvre du Seigneur. Sans les événements de ces 10 jours, il est probable que je ne serais, pas ici aujourd'hui. Moniteur des écoles du dimanche, permettez-moi de vous supplier encore une fois de chercher le salut de vos élèves. Prenez la résolution de ne rien négliger pendant les 10 jours qui vont suivre pour amener à Christ chacun des enfants de votre groupe. Père et mère, n'ayez pas de repos avant que tous vos enfants soient entrés dans le royaume de Dieu. Oseriez-vous dire qu'il ne bénira pas de pareil effort? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un esprit de consécration et de concentration. Dieu veut répandre son esprit sur chacun de nous et nous remplir d'un saint enthousiasme.